17h, 19h. Suite 881, Capitaine Barberousse.
C'est un excellent début de week-end. Nous sommes le vendredi 1er février et il s'en est passé des choses. Un 1er février, par exemple, en 1669, c'était la première représentation publique de la comédie en 5 actes en alexandrin de Molière, le Tartuffe, qui avait été enfin autorisé. En 1879, la Marseillaise a été choisie comme hymne national français. Quelques années plus tard, en 1893, le premier studio de cinéma au monde avait été construit par Thomas Edison, notamment près de son laboratoire. En 1899, encore quelques années plus tard, on invente l'aspirine. Et puis, presque un siècle après, en 1967, c'est la sortie de la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et Catherine Deneuve et François d'Orléac. Et en 2019, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez Radio Campus Bordeaux, la suite 881, et vous allez partir à la rencontre du groupe de rock bordelais qui monte Stones of Babylon, et ainsi que du spectacle d'improvisation La Cabale, qui s'appelle Sauvage tout simplement. Et pour ça, rien de mieux que d'inviter ceux qui font ces arts là, à savoir Tom Phoenix pour l'improvisation. Salut Tom.
Salut Nicolas.
Et Manu, Ludo et Ludivine pour le groupe Stones of Babylon.
Bonsoir.
Salut. J'ai travaillé mon anglais, mais c'est pas encore ça. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Bordeaux. Donc un album qui est sorti, je crois, le 25 janvier, c'est tout récent, c'est tout frais.
Semaine dernière, oui.
La semaine dernière, on se sent dans quel état quand l'album est sorti? Ça y est, on peut le toucher physiquement, on peut l'écouter dans sa platine CD. Est-ce qu'on n'en peut plus parce qu'on a passé des mois à réécouter avec l'enregistrement, ou est-ce qu'au contraire, on a envie de le réécouter et ça donne un nouveau souffle?
C'est un peu tout ça, ouais. C'est un peu mitigé, ouais. Parce que... voilà, il y a l'album, c'est fini, on a l'objet, on sait qu'on a l'aboutissement d'un projet, donc on est hyper content. Mais moi j'avoue qu'à la fin je saturais de réécouter les pistes, de choisir, de comparer, d'échanger, c'est beaucoup de temps, donc c'est passionnant, hein, mais ouais. À la fin ouais, il faut que ça s'arrête.
J'ai une mauvaise nouvelle du coup, c'est que tu vas devoir réécouter ce soir l'album de Stones of Babylon, puisque quitte à en parler, autant l'écouter un peu. Et on commence tout de suite avec le premier titre du premier morceau de cette double album d'ailleurs, Voodoo's Lives. Il faut vraiment que je travaille mon anglais.
Wife.
C'est Wife. Voodoo's Wife, ouais.
Eyes were tumbled, comes something away. You didn't throw twice until it lectured, but the ties were cast away. Street fanny pants, far from any proud. His woman hand and let him hit down, as well as hear filthy background. This cheeky boy. Oh,
when him, the greatest all free woman, Paris Reed is going to leave him. No matter how, no matter when, everybody calls her wet on the slide. They all come to see her what a lie. That is why. Such an awful place, but they feel like in grace. How strange are good vibrations. They know they never leave it all.
Le premier titre du nouvel album, du premier album d'ailleurs, de Stones of Babylon. Et je vais demander à notre improvisateur, Tom Phoenix, de faire son analyse critique de cette écoute attentive de ce titre et de ce. Fais gaffe, t'as le groupe en face. Hein.
Oui, alors déjà, je suis obligé de dire aux gens que ça triche comparé au spectacle parce que tu me l'avais annoncé que j'aurais ce truc-là à faire pendant la chanson qu'on n'a pas bien entendu puisqu'on a discuté, je dois le dire.
Venge.
Non, mais après, écoutez, je ne peux dire que c'est bien et que je les encourage et je ne suis pas critique de musique, donc j'espère que ça se passera très bien pour eux et je ne saurais faire mieux que ça si ce n'est aller les voir en live. En tout cas, j'essaierai moi d'aller voir en concert et d'écouter l'album du coup maintenant que j'en ai connaissance et qu'il est sorti surtout, parce qu'avant ça aurait été difficile.
Tom, tu es un improvisateur issu de la compagnie, la troupe, je ne sais plus faire la différence entre les deux, de la Ciguë, et tu proposes un spectacle qui s'appelle La Cabale. Enfin, c'est
le nom de la troupe.
C'est le nom de la nouvelle troupe Et le spectacle s'appelle Sauvage.
C'est ça.
Ça me fait beaucoup penser à ce film, Les Nouveaux Sauvages, où ce sont des petits courts-métrages où les gens pètent les plombs littéralement. Je
ah
sais
oui,
pas si vous l'avez
ça.
Vu.
Oui, oui, avec Ricardo Darín.
Exactement.
Tu peux en faire une critique ? Non, pardon.
Je vais faire comme toi alors. Je crois qu'il y a une guitare.
Et est-ce que c'est un peu l'esprit de ce spectacle sauvage que les gens pètent les plombs littéralement en improvisant, bien sûr, puisque c'est de l'improvisation.
Oui, complètement. Bah, en tout cas, c'était la source originelle de l'inspiration. C'était justement ce film, Les Nouveaux Sauvages, et donc ce type de jeu un peu hispanique, argentin, donc hyper, hyper fort, hyper puissant, hyper impliqué. Et surtout, les questions que pose le film sont hyper contemporaines, hyper intéressantes. Et nous, ça nous intéressait d'avoir des personnages qui reprennent totalement leur liberté, qui décident de mettre à plat toutes les normes sociales et de devenir vraiment sauvage, justement.
Et ça se joue tous les jeudis à Bordeaux, dans 4 salles différentes, histoire que tous les quartiers soient un peu arrosés.
C'est ça, et puis histoire d'aller voir des lieux. Comme en fait, on joue in situ, c'est-à-dire que le lieu pour nous est important pour démarrer l'improvisation, parce que c'est un objet de l'impro hyper important, justement, parce qu'on n'a pas de décor, on n'a rien. Le décor, c'est les murs, ce qui nous entoure, etc. C'est bien aussi pour nous de bouger, d'aller de lieu en lieu et de découvrir de nouvelles salles.
Et vous partez de quoi à la base ? Parce que l'improvisation, quelquefois, il y a un cadre qui aide un peu. Est-ce que les personnages sont un minimum écrits pour pouvoir partir de ça ? Ou est-ce que vraiment, c'est vous partez de rien et le but final, c'est de péter un plomb ?
Alors, on part de rien, effectivement. Et le but final n'est pas forcément de péter un plomb, parce que sauvage, on a distingué qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, la sauvagerie, ça peut être... je sais pas, t'es en Iran, tu joues un couple de femmes lesbiennes et elles décident de faire l'amour en public, elles sont pas en train de péter un plomb et pourtant ce qu'elles font est éminemment sauvage. Donc ça pourrait être toutes sortes d'histoires en fait, mais c'est, en tout cas c'est dans la société dans laquelle ça se passe, l'idée c'est d'aller reprendre revenir à l'état pur, quoi, à l'état brut. Et après, on part de absolument rien, si ce n'est des corps en présence. Donc, c'est très corporel à chaque fois au début. On hérite ça d'une méthode qui s'appelle Slow, qui est une méthode d'improvisation théâtrale créée par deux comédiens, Marco Meyer et Mathieu Loss.
C'est quoi cette méthode ?
C'est une méthode, justement, où l'objectif de la méthode d'impro, c'est de se dire qu'on révèle ce qui était déjà là. C'est-à-dire qu'en gros, on a la croyance que sur le plateau, à l'endroit où on est, il y avait des millions d'histoires possibles et qu'on va en découvrir une en même temps que le public. À un instant donné, à un moment donné qu'on partage tous ensemble.
Et donc vous partez de cette méthode pour construire le spectacle en fait.
Et on s'est appuyé dessus, ouais, parce que ça nous correspond bien, et pour arriver à créer dessus une surcouche et une dramaturgie pour que ça raconte quelque chose et que ce soit pas un spectacle d'impro parmi tant d'autres, mais une pièce de théâtre vraiment improvisée.
Oui, avec une histoire, avec une dramaturgie, t'as dit le mot.
Exactement.
Il faut qu'il y ait une construction derrière tout ça.
C'est
et
ça.
Alors la transition est toute trouvée, puisque avec la méthode Slow, on vient de démontrer que l'improvisation, ça se travaille. Stones of Babylon, vous en faites, vous, de l'improvisation. On est dans un style un peu rock psychédélique. On a envie d'avoir des solos. On a des solos, d'ailleurs, qui se partagent. Ce sont des solos improvisés, où ils sont au final écrits, mais au départ improvisés. Comment ça se passe, le rapport à l'impro dans votre groupe ?
Parce que il y a deux types, on va dire, de solo là, comme tu parles, enfin puisque tu parles de ça, ça découle d'un bœuf souvent. Enfin, j'apporte des idées, on part pas de rien, on part jamais de rien. Je réfléchis pas, je joue et je vois. Après, qu'est-ce qui pourrait leur plaire ? Sur quoi on va tomber d'accord ? Là, effectivement, il va y avoir un buff par rapport à ça, et après on structure. Donc les solos sont pas écrits à la base, mais si je m'aperçois que il y a des thèmes, des chorus qui reviennent et qui fixent les choses, c'est sûrement que c'est ça qu'il faut garder. Donc il va y avoir des lignes directrices d'appel, de démarrage, des amorces, et puis d'autres qui sont complètement libres. Sur un disque, il faut quand même poser une grille et se cantonner à un certain nombre de mesures, mais sur scène ils peuvent être plus longs, plus courts, parce que ce soir-là ça prend moins, mais en général non, ils sont plus longs, ouais, sur scène, ouais.
Et vous vous servez des contraintes, comme on peut se servir des contraintes en improvisation, en se disant là je veux, on part sur un nouveau morceau, mais je veux que le morceau il soit un tempo bien défini, ou je veux qu'à un moment donné la structure ça soit pas couplet-refrain, c'est des petites contraintes comme
c'est
ça qui peuvent...
C'est ce qu'on a fait pas plus tard qu'à la dernière répète, puisque justement suite à tout ce qu'on a fait sur l'album et à quelques concerts où on a dû avoir des morceaux un peu, on va dire, on a travaillé un peu tout le temps les mêmes morceaux, donc on a retravaillé un morceau qui n'est pas encore terminé, et justement on s'est dit que la structure qu'on avait imaginée au début ressemblait un peu trop à ce qu'on avait déjà vu, et donc là on a joué en fait, et petit à petit en fait l'intensité du morceau est montée, et on est arrivé à quelque chose qui nous a plu, et on a fixé ces choses-là en fait, parce que on voulait sortir un peu d'un schéma qu'on avait déjà rencontré sur un autre morceau, et donc s'imposer de sortir un peu des limites qu'on avait habituellement pour avoir quelque chose de plus intense en fait.
Oui, qu'on soit dans la musique ou dans le théâtre, le point commun c'est l'art, et l'art c'est jouer notamment avec les codes. Et sur le pareil, j'aime bien faire des parallèles entre mes différents invités, c'est un peu le but du jeu. Sur le côté sauvage que peut proposer l'improvisation de la troupe La Cabale, est-ce qu'il y a ce côté un peu révolution, un peu colérique des personnages que vous mettez en scène dans la musique?
Peut-être pas de façon, pas consciemment. Après, dans les sons, je pense qu'on y est, oui.
Il y a un peu de rage quand même.
Oui, c'est des sons un peu rugueux, instinctifs et bruts. On n'est pas là pour polisser, avoir un son ou des morceaux d'un format précis parce qu'on attend ça, parce qu'à la radio il faut ceci, il faut cela. Non, on les joue à l'instinct. Et puis ensuite on fait le tri, c'est bon, c'est pas bon, mais en tout cas le côté, on va dire, agressif, il se retrouve dans le grain des instruments. Ouais.
Dans le texte aussi ?
Les textes aussi.
Dans les textes aussi, et aussi, moi je trouve, dans les histoires que racontent les chansons, enfin, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que les chansons racontent des histoires, enfin, on colle pas juste des mots comme
oui,
ça.
Oui, c'est pas non, l'amour, les petits oiseaux, voilà, tout ça, ce sont des personnages qui vivent.
L'album s'appelle...
Il y a une dramaturgie.
Voilà, mais non, mais l'album s'appelle Crossing Paths, donc c'est à la croisée des chemins, et finalement, chaque chanson raconte une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, enfin, moi je le ressens au chant, sur scène, alors... probablement plus sur scène qu'à l'enregistrement de l'album, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui passent, et une émotion et quelque chose effectivement des fois de sauvage, ouais, vraiment, parce qu'on arrive à des moments où dans le texte, et du coup avec les instruments qui aussi sont de plus en plus là, enfin quelque chose de sauvage, ouais.
Un côté anticonformiste aussi peut-être, par rapport à un décalage à la société, le côté rétro peut-être, rock psychédélique 70s, on n'est plus trop dans cet esprit là aujourd'hui, même s'il revient, hein, mais si on se balade dans la rue, on croise pas cet esprit là tous les jours, j'ai l'impression.
Non, on croise pas ça tous les jours, mais après on n'a pas trop d'étiquette, enfin, on cherche pas une étiquette, on cherche pas à jouer un rôle de leader de la rébellion, non, on n'est pas là dedans, mais et oui, si on écoute les textes et qu'on s'attache au son qu'on produit, forcément ça nous ramène quelques années en arrière.
J'aime bien le déguisement qu'il y a dans ces textes, parce qu'ils ont l'air assez gentil finalement, et si on creuse un peu entre les lignes, on se rend compte qu'il y a des petits messages subliminaux, oui. Qu'il y a des petites choses qui... Vous avez un exemple comme ça de morceau sur lequel on quand on lit le texte de prime abord il a l'air sympa, puis en fait si on lit entre les lignes
C'est Destiny, hein.
Destiny
oui. Street, bon,
qu'est-ce que ça raconte Destiny Street?
Alors Destiny Street, en fait, il a été pensé...
C'est un mariage
peu... Ouais, c'est un mariage. Il a été pensé un peu comme un court-métrage. Et je pense qu'il y a vraiment un clip à faire avec ça.
Ah oui, c'est sûr.
Où c'est... comment dire, une c'est... personne de couleur qui bien née, qui doit se marier. Et on a une fille, elle, qui est blanche de peau et qui est pauvre... Et on voit que le mariage va être compliqué d'un point de vue social et d'un point de vue...
Acceptation.
Ouais, des couleurs.
Et bien on l'écoute. Destiny, justement, sur Radio Campus.
D'accord, je te finirai après alors. Quasimodo.
Yeah.
Voilà un extrait de Destiny, donc un des titres de ce nouvel album de Stones of Babylon. L'album s'appelle Crossing Path, à la croisée des chemins donc. Et vous avez vu que nous sommes aussi avec Tom Phoenix de La Cabale, du coup, pour le spectacle Sauvage. Vous aimez tous les deux les histoires, que ce soit les histoires dramaturgiques pour Tom et pour la pièce Sauvage, la pièce improvisée Sauvage, ou les histoires qui sont racontées à travers les titres de Stones of Babylon. Racontez-nous votre histoire à partir de la genèse du projet. Alors on va partir de deux endroits différents. Pour Stones of Babylon, vous allez nous raconter la genèse de cet album qui vient de sortir, donc l'enregistrement et où vous en êtes aujourd'hui. On parle pas des répètes. Et Tom, par contre, tu vas partir de l'endroit où tu es sorti de la ciguë et tu as décidé de fonder entre guillemets ta propre troupe pour monter cette pièce. Qui commence, Tom?
Très bien. Eh bien, comme tu l'as dit justement, oui, j'ai quitté la ciguë, mais c'est normal parce que ça correspond un petit peu à mon parcours personnel, c'est-à-dire que la ciguë est une très très belle troupe dans laquelle j'ai fait mes armes, mais une troupe d'improvisation à vocation amateur, là où moi j'avais plutôt envie de me professionnaliser parce que je faisais d'autres choses dans le théâtre de manière professionnelle. Et cette envie est venue de créer forcément une troupe dans laquelle il y aurait un spectacle fort, puissant en improvisation, qui soit vraiment un spectacle de théâtre, une pièce à part entière. Et il se trouve que ça correspond à peu près au moment où ça faisait un an et demi que j'avais découvert cette fameuse méthode dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le slow impro, et qui est une méthode très corporelle et qui correspond à ce que moi j'aime sur scène, c'est-à-dire une implication très très forte de la part des comédiens et des comédiennes. Avec un jeu très incarné, pour le coup très théâtral, quoi, pas du tout cinéma. Quand on est chez Sauvage, on est à 100% au théâtre, on est 100% là, et effectivement, et c'est important que ça se sente, que ça sue, qu'il y ait de la matière en présence, quoi.
De l'énergie. Ça, exactement. Pour l'instant, c'est un délire perso. Comment ça s'est transformé en une troupe, La Cabale?
Et alors, ça s'est transformé en une troupe parce que j'ai dit à des gens, venez avec moi, et que du coup, des gens ont dit d'accord. Et par chance, heureusement, non, mais il se trouve que forcément, je connaissais un peu de monde parce qu'à force de jouer à Bordeaux depuis plusieurs années en impro, tu connais un peu de monde. Et en théâtre aussi, j'avais la chance d'avoir un peu de monde que je connaissais et avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Je les ai invités, on a fait plusieurs répétitions, des gens sont partis, d'autres sont arrivés, d'autres sont restés heureusement. Et au fur et à mesure, on a fini par trouver la création, le spectacle qu'on a répété ou travaillé, on pourrait difficilement dire répéter puisqu'on n'a pas de texte, mais en tout cas travaillé pendant quelques mois entre nous pour arriver à trouver cette forme spécifique qu'aujourd'hui Sauvage.
Mais le projet Sauvage, il était déjà né dans ta tête avant la création de la troupe en fait.
Oui, en tout cas il y avait l'envie de travailler autour de cette thématique là, ça n'avait pas encore ce nom là parce qu'il a fallu le trouver un peu ensemble. Mais c'était autour de cette thématique-là que je voulais travailler.
Alors, La Croisée des Chemins, pour citer le nom de l'album de Stones of Babylon, fait que entre le projet initial qu'on a dans la tête et le projet final qui est sur scène, je vous rappelle que vous jouez tous les jeudis, pas dans quatre lieux Bordeaux, mais ça dépend desquels. Ouais. Il y a le Théâtre de la Rousselle, il y a l'Inox, il y a l'Improvidence et l'Union Saint-Bruno.
L'Union Saint-Jean.
L'Union Saint-Jean.
Je corrige, mais...
Ok. Quels ont été les changements qui se sont opérés à La Croisée de ces Chemins?
C'est beaucoup de changements.
On joue au jeu des 7 erreurs là, entre le projet initial et le projet final.
Complètement. Beaucoup de changements parce que, comme en plus nous on joue vraiment avec les gens qui sont là, dès que quelqu'un arrive dans la troupe, ça rebascule un petit peu le spectacle forcément. Sur la forme elle-même, j'avais pas d'idée vraiment aboutie, c'est-à-dire que tu viens un petit peu avec une envie, mais je pense que pour le coup ça doit se passer comme quand on crée de la musique, c'est-à-dire que on travaille ensemble, on tourne, je lance des exercices, on essaye de faire des choses, je lance des pistes, et en fait au fur et à mesure on évacue ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui fait que dans ma tête il y avait plein de choses qui marchaient très bien et à l'essai en fait ça fonctionne pas du tout. Et à l'inverse sur le plateau, il y a des fois tu vois un truc et tu te dis bon ok c'est ça que je veux, là c'est tellement puissant, tu m'as pris avec moi, t'as rien fait, enfin en tout cas t'as l'impression d'avoir fait peu de choses, mais finalement c'est hyper puissant. Et ça attrape le public, et nous c'est vraiment notre volonté. Le gros axe de travail c'est comment faire en sorte que ok on répète entre nous, on est 3, 4, 5, 6, ça dépend, mais quand on joue sur scène c'est 3 comédiens plus tout le public qui va être à un moment donné impliqué dans cette découverte de l'histoire avec nous, voire même des fois ils vont faire partie de l'histoire.
Et donc il faut travailler ce rapport avec le public. Quand vous êtes sur scène, sur l'une de ces 4 scènes que j'ai citées, vous êtes avec le public ou vous avez tendance à l'occulter pour être complètement dans votre personnage ?
Non, non, on va être les deux. C'est-à-dire que comme on va pouvoir jouer plusieurs histoires dans une soirée, on va jouer de 1 à 4, 5 histoires suivant, le temps qu'on a, etc. On prédétermine rien.
Donc ça peut être des temps longs d'improvisation.
Ça peut être des temps très longs et des fois des trucs plus courts, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le public, à un moment donné dans la soirée, sera forcément avec nous parce que on va toujours jouer dans le public. C'est-à-dire que pour nous, la scène n'est pas un lieu sacralisé, en tout cas pas dans ce spectacle-là. Donc on démarre de la scène, mais après on va avec eux, on joue au milieu du public, on peut jouer dehors, on peut jouer dans la rue, on joue partout où on a le besoin de jouer à ce moment-là.
D'accord, et ça peut aller très très loin ces spectacles, hein. J'imagine,
oui.
J'imagine l'ambiance quand les comédiens emportés par la sauvagerie de leur émotion vont dans la rue ou vont dans le public, ça peut surprendre en tout cas.
Du coup c'est bien parce qu'on peut, on peut venir vous voir plusieurs fois et on verra jamais le même spectacle en fait.
Exactement, ouais, d'un point de vue marketing c'est super bien pensé. oui non mais effectivement c'est l'avantage, mais même pour nous ça veut dire que t'as pas ce côté récurrent quand on fait du théâtre. Oui. Moi j'adore le théâtre aussi, mais c'est vrai que c'est comme quand tu tournes un album ou un produit fini, tu peux t'amuser dans la perfection de ce que t'es en train de faire ou d'en trouver un petit détail etc, mais grosso merdo tu sais ta partition, tu sais ce que tu as joué. Là on a ce plaisir quasi indécent de découvrir à chaque fois la pièce qu'on est en train de jouer. C'est super à vivre, c'est complètement dingue.
Contrairement à Stones of Babylon ou à chaque fois qu'on va les voir en concert, c'est toujours les mêmes morceaux, c'est toujours...
C'est comme je disais, c'est comme le théâtre. Pour moi, les deux sont géniaux et j'adore, et je trouve ça magnifique aussi de travailler et d'aboutir une œuvre de plus en plus.
Oui.
Mais c'est juste que l'un n'enlève pas l'autre, heureusement. Et moi, à la base, je viens du théâtre, donc je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai qu'il y a un plaisir jouissif à improviser, mais comme dans une jam de musique, comme partout. Enfin, les deux ont leur plus et leur moins, forcément. Ton travail, il est... En niveau de dramaturgie, par exemple, on en a une, mais effectivement, si j'écrivais le spectacle, si je devais retoucher un spectacle de Sauvage qu'on a improvisé, j'enlèverais des lignes de texte, j'en rajouterais d'autres, j'en retoucherais à des choses.
De toute façon, même un spectacle très écrit varie toujours en fonction du public, et c'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant, d'ailleurs. Stones of Babylon, vous avez un ensemble de morceaux, vous répétez régulièrement, vous faites quelques concerts, et là, vous décidez de réaliser cet album que j'ai entre les mains, aux couleurs orange, rouge, on ira sur le graphisme tout à l'heure. Racontez-nous cette histoire, cette aventure.
Nous, on a fait comme toi, on a appliqué la méthode slow, mais ça n'a pas marché. Ça arrache un peu plus. Les morceaux, au bout d'un moment, à force de les jouer, on a envie de les garder, d'en faire profiter un public plus large qui peut ne pas se déplacer, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a envie de les réécouter. Et puis, nous, les premiers, donc c'est important d'avoir un projet qui aboutisse.
Alors, un projet d'enregistrement, ça se fait régulièrement, d'enregistrement sur support CD, ça se fait de moins en moins finalement, parce qu'aujourd'hui les gens disent « j'ai plus de lecteur CD, j'écoute tout en MP3 ». Vous avez choisi le CD, pourquoi ?
Il y avait un débat, il y avait on les met en ligne, en streaming, voilà. Moi je sais que je suis attaché à l'objet, parce que, alors attention, ça engage que moi, mais les produits dématérialisés, moi je sais qu'au bout d'un moment, ils passent à la trappe.
Ben oui.
Ça reste des fichiers dans un ordi, sur le net. Je vais moi pas forcément faire l'effort d'aller écouter ça, parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Un téléphone pour écouter, moi j'aime pas ça. Je me dis qu'il y en a d'autres. S'il faut être collé devant un ordinateur et des enceintes pour en profiter... Ah ben voilà, ok, on écoute de la musique, mais alors enfin, s'il faut rester derrière un bureau,
oui, puis il y a ce côté éphémère aussi, effectivement, le CD, on y revient, on le réécoute, même quelques années après, donc il y a ce côté.
Voilà, il y a des CD que je sais que je les ai, mais quand je vais chercher dans ma CD Tech, je me dis tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, hop, je le prends dans la voiture, ou je le prends en faisant autre chose. Dématérialisé, moi, il y a un côté qui me gêne. Alors, on n'a pas exclu...
Donc, en fait, c'est parce qu'on est vieux que...
On
a fait un CD.
Ouais.
Non, je rigole.
Non, mais oui, mais vieille école aussi, quand même. Hein.
Ouais, et
oui.
En même temps, il y a le retour du vinyle, par exemple.
Mais voilà, le débat,
le
débat avait été aussi un peu là-dessus. Ouais. Et on s'est dit qu'après, le vinyle... viendrait peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est vrai qu'après
c'est plus cher,
c'est pas les mêmes coûts,
voilà.
Mais c'est vrai qu'après, enfin, dans tous les cas, à l'heure actuelle, l'album est en forme de CD, il va aussi être sur
streaming.
Des plateformes, puisqu'effectivement il y a quand même aussi des gens qu'on peut toucher par ce biais-là.
Donc si je résume, la première étape de la genèse de ce projet, c'est on s'engueule.
Non,
la
première étape, c'est plutôt on débat, c'est pas on s'engueule. Voilà, après, chacun a son avis et on arrive à trouver un consensus. C'est
d'accord,
pas pareil.
D'accord, c'était un débat constructif. Steven, tu voulais intervenir.
Oui, enfin moi, c'était un peu pour revenir sur le truc du streaming, mais je trouve que ce qui est bien avec le CD ou le vinyle, c'est que ça donne une valeur au produit, alors pas forcément marchande, hein, c'est pas juste que pour ça, mais je trouve qu'avec le streaming, c'est un produit qui passe. C'est une musique qui passe, c'est un truc que, ah oui, tiens, c'est une playlist automatique qui m'a été passée, ah oui, j'ai entendu ce morceau, bon, je l'écouterai plus tard, et au final, il passe. Alors que le CD, au moins, on le réécoute souvent, il y a cette forme-là que je trouve qui est bien avec le matériel physique plutôt que le streaming.
Ouais, et puis ça se partage, enfin, un CD, ou comme à l'époque, les cassettes et machin, on se les passait. Après, des fichiers, on se passe... Enfin,
oui, non,
c'est des clés, mais
on se passe des playlists. Quoi. On se dit, tiens, écoute ça.
Mais souvent, il y en a un wagon et puis on n'écoute pas tout.
Il y a un autre aspect aussi, tu parlais de la pochette.
Ouais.
Et en fait, il y a aussi l'aspect de se faire plaisir à travers ça. Parce que finalement, ça aussi, ça raconte une histoire. Ça aussi, ça donne la couleur en fait, et du groupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas en streaming. En alors, il y a des petites images, etc. Mais une pochette. Enfin, moi, j'ai déjà téléchargé des choses en streaming. Il y a des fois un digital booklet, etc. Ouais, enfin, c'est un truc qu'on regarde absolument pas. Tant qu'on l'a pas dans les mains,
on n'a pas forcément
le
visuel. À quel moment c'est intervenu d'ailleurs dans l'enregistrement ? Est-ce que vous avez d'abord pensé à enregistrer les morceaux et après faire le graphisme, ou tout vient en même temps après le débat du CD vinyle ? Est-ce qu'on se dit bon ben voilà, j'ai une idée de pochette, j'ai une idée de titre, je vais bosser avec tel graphiste, avec tel illustrateur ? Comment ça se passe après ?
La pochette, elle s'est installée un peu petit à petit. On avait les tons, l'ambiance, tout ça, on l'avait. Après, on n'avait pas forcément le
rendu tel qu'il est.
Le rendu actuel. Après, la graphiste qui a travaillé dessus a répondu à ce qu'on a guidé. Il y avait pas mal d'échanges, proposer des choses. On n'aimait pas plus ceci, moins cela. Et petit à petit, on est tombé sur finalement exactement ce qu'on voulait, sans avoir... on va dire, penser complètement la pochette. Par contre, oui, c'est sûr que les tons, la couleur,
l'ambiance,
le temple,
Tom,
les gens perdus dans le désert.
Est-ce que tu peux nous décrire la pochette ? Moi, je l'ai sous les yeux, je l'ai peut-être trop vu pour...
Sinon, tu fais sans la pochette et t'improvises.
Décidément, oui, mais ce serait vache. Alors, il y a des gens qui vont l'acheter et qui ne vont rien voir de ce que je dis.
Donc, la Radio Campus et vos oreilles, Tom sera vos yeux pour cette pochette.
Oui, alors attends, j'ai toute l'info en même temps de comment vraiment la découvrir. Eh bien écoute, déjà j'ai le titre, mais ça je le savais, Stones of Babylon, je vais faire comme toi, je vais prendre des cours, Crossing Path, et à gauche il y a quelqu'un, un monsieur il me semble, j'aime beaucoup d'ailleurs les gens qui sont, qui portent une sorte de toge, comment on dirait ça, une tunique, voilà, on ne voit pas bien son visage, mais il porte une lanterne qui permet d'éclairer un petit peu ce qui semble être un temple avec une tête d'éléphant sur le dessus, et face à lui un chemin qui le mène vers d'autres hommes visiblement, ou femmes d'ailleurs, je ne sais pas, qui eux aussi portent des tuniques. Ils sont un petit groupe de 4, et au loin je ne sais pas, mais en tout cas je peux voir un beau ciel orangé. Ce que je vois en gros. J'espère que vous le voyez aussi. Et la liste des titres. Mais je ne vais pas tous vous les lire.
Alors, ça ira.
Le numéro 1.
5 minutes 57.
On est sur des tons un peu orangés. Et ça a été donc au fur et à mesure. Mais la graphiste avec laquelle vous aviez travaillé avait déjà les morceaux qui étaient déjà enregistrés, ou ça s'est fait en même temps
Un peu des deux. Ouais.
Un peu des deux. Hein.
Oui.
L'enregistrement lui-même. Enregistrement collectif, tous en même temps, ou instrument par instrument ? Non.
Instrument par instrument.
Instrument par instrument, ouais.
Un peu épique, ouais.
C'est dur, ça. C'est dur, ça, dans ce style-là, en plus, où le groove est nécessaire pour que tous les musiciens soient ensemble. Il y a une sorte d'énergie, un peu, dans le rock 70s, psychédélique. Je vous qualifie comme ça, hein,
Un
peu stoner aussi.
C'est plutôt flatteur, ouais.
Du coup, là-dessus, on peut rendre un grand hommage à notre bassiste, parce qu'il n'est pas là ce soir. Enfin, donc, voilà, Rolando, qui a commencé les enregistrements. C'est-à-dire que c'est à partir de ces enregistrements que, derrière, la batterie a été enregistrée, puis la basse a été réenregistrée, puis la guitare, etc., et puis la voix. Et donc c'est lui qui a commencé enregistrer les lignes de basse. Et ce qui était pas, enfin, c'est pas simple d'enregistrer chacun sur des pistes, mais alors commencer, ça, à mon avis, c'est encore le plus compliqué.
C'est assez dur. Vous êtes drivé par un ingé son à ce moment-là, il vous accompagne dans l'enregistrement, non, ou c'est
non,
vraiment
non,
du.
Non, on fait là, tout en fait.
Ouais, c'est un peu du sans filet, ouais.
Autoproduit, complet.
Oui.
Oui. Pas, alors pas sur le. Pas sur le mix et le mastering. Là, on a quand même confié ça à un ingé son. Parce que c'est vraiment un boulot à part entière.
Mais sur l'enregistrement à proprement parler.
Sur l'enregistrement, on a fait à l'ancienne, justement, sur quel lieu est disponible à quel moment. Donc, chez Ludivine, la batterie à l'autre bout de la France. Dans quoi il a enregistré la batterie ?
Dans une grange,
ouais, une grange de... raménagée. Ouais. Enfin voilà, Rolando chez lui. Ensuite, on a récupéré des micros par d'autres copains qui font du son, donc des micros qui vont bien pour enregistrer quand même. Donc c'était, ouais, bah, alors là pour le coup, c'est l'esprit rock, oui.
Et c'est une bonne histoire que vous racontez là, parce qu'en même temps. Qu'il faut enregistrer, on doit découvrir plein de nouvelles disciplines. On doit apprendre quels sont les bons micros, on doit apprendre comment ça marche. Il y a une dimension où, quand on s'engage dans un projet, on apprend forcément.
Bah, c'est sûr que c'est
on
une
maîtrise
bonne,
pas tout.
C'est une bonne expérience parce qu'effectivement, on apprend de ce côté-là. Alors en plus, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui me conseillent aussi là-dessus, donc ils nous ont prêté des choses, enfin bon, tout ça, c'est quand même bien. Et puis après, c'est vrai que ça donne encore plus de valeur à ce qu'on fait, parce que voilà, on crée vraiment le truc nous-mêmes, quoi. Donc c'est pas juste se poser à un moment derrière une vitre avec quelqu'un qui vous dit allez-y, c'est bon, machin. Et non, c'est, on est tous là, on fait ça ensemble. Alors quand je dis qu'on a enregistré chacun, malgré tout, mis à part la basse et la batterie, pour le reste on était souvent ensemble. Et ce qui permettait aussi de ne pas être chacun dans son coin, parce qu'il y a des moments où on a un petit peu des moments de solitude quand on enregistre sur une piste. Mais, non, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de donner l'énergie. Enfin, on a fait un concert il y a une semaine et demie. L'énergie qu'on donne à ce moment-là, rien à voir avec l'énergie qu'on a quand on enregistre comme ça. Enfin, c'est vraiment compliqué.
Par donc définition, l'énergie n'est pas constante.
Voilà, et le fait d'avoir les autres autour de soi, ça aide
porte,
vraiment, quoi.
Ça
porte
aide,
et
oui.
ça change totalement la dimension de ce qu'on fait.
Avec la fatigue, des fois, on n'a plus trop la lucidité. Donc, on dit, bon, là, mais je vais refaire cette prise. Et alors, il dit, non, elle est très bien, ta prise. Non, elle n'est pas bien. Après, si on est convaincu qu'elle ne plaît pas, elle ne plaît pas. On garde toutes les prises au cas où, on prendra la mieux. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où on a besoin que quelqu'un dise non, là, t'es pas dedans, là c'est bien, il y a l'instinct, mais t'es pas dedans, là.
Le groupe régule.
Ou l'inverse.
Donc une des difficultés qui a été vécue dans cet enregistrement, je pars sur le projet La Cabale avec le projet Sauvage. Au final, tout est bien, mais est-ce que tu peux nous raconter une des difficultés que vous avez rencontrées au cours du montage de ce projet, ou peut-être en termes d'énergie, de groupe, de disparité, d'opinion. J'aime bien creuser sur les difficultés.
Oui, non, mais tu as raison, parce que c'est important, parce qu'il ne faudrait pas que d'autres artistes pensent que c'est, ou d'artistes en devenir ou artistes en cours pensent qu'ils sont les seuls à galérer. En fait, en réalité, toutes les étapes de création sont difficiles. Heureusement, on s'en sort, et je pense que ça participe aussi à la qualité de l'œuvre finale. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, et c'est souvent comme ça que je vois les répétitions, les créations, quand c'est moi qui les porte, c'est de dire... si tout s'est bien passé à la répète, c'est que quelque part on n'a pas bien bossé. J'aurais plutôt tendance à me dire qu'il faut être dans l'échec, toujours une petite marche au-dessus. Donc non, c'est difficile, notamment le plus difficile, c'est de créer un groupe, de créer une troupe vraiment, d'avoir des gens qui sont impliqués. Parce que,
la cohésion.
Oui, et puis de te rendre compte qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances, il y a des gens qui se rendent compte que le projet n'est pas pour eux. Ou toi, tu te rends compte que le projet n'est pas pour certaines personnes et que c'est difficile parce que... nous on va jouer toutes les semaines, du coup on est plus nombreux que ce qu'il y a dans le spectacle. Il y a 3 comédiens ou comédiennes dans le spectacle, alors qu'en réalité on est forcément plus nombreux, puisqu'à jouer tous les jeudis on tourne, on a des distributions qui roulent, et de fait il faut 1 que tout le monde arrive à jouer ensemble, et 2 que tout le monde ait vraiment envie de le jouer, ne pas manquer de monde mais ne pas être trop nombreux non plus, parce qu'à 15 t'as plus de cohésion. Donc c'est vrai que c'est créer le groupe, ça aurait été le challenge le plus difficile. Après, il y a toutes les questions de production, forcément, trouver les lieux, etc. etc. c'est très long, très coûteux, mais en temps, mais en même temps, ça c'est le challenge pour tout le monde.
Ouais, y a une formule que j'aime bien, je sais pas de qui elle est, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est ça, ça montre un peu le.
C'est pas Usain Bolt ça.
Je pense
il
pas.
Il va beaucoup beaucoup
non,
plus vite.
Non, parce que lui il va plus loin, plus vite tout seul.
Mais en tout cas, ça montre à la fois les difficultés et les joies de l'esprit de groupe. Tom Phoenix, une bande-annonce en 30 secondes pour vendre Sauvage, donc de cette troupe d'improvisation La Cabale, et pour nous argumenter d'aller voir ce spectacle d'improvisation plutôt qu'un autre, parce qu'après tout, il y en a plein des spectacles d'impro, alors pourquoi celui-là ?
Eh bien, Sauvage se joue tous les jeudis à Bordeaux et il faut aller le voir d'abord parce que les 20 premières représentations de l'an dernier se sont très bien passées avec de bons retours du public, donc on suppose que ça plaît. Et ensuite parce que c'est l'occasion d'aller voir un spectacle qui effectivement sera toujours différent et un spectacle qui vous emmènera avec nous dans cette folie sauvageresque, j'ai envie de dire, même si le mot n'existe pas. Voilà, à découvrir un petit peu les histoires de ces personnages a priori ordinaires qui deviennent extraordinaires et qui pourraient être vous.
Quel talent pour la bande-annonce d'improvisation. Merci Tom. On a un site internet, on a une page Facebook pour aller suivre votre actualité.
On a une page Facebook, c'est le mieux, La Cabale. On a aussi un site internet cabale.fr où on peut voir nos actus
et réserver
sur le site caucus.fr à la billetterie ou billets réduits, voilà, ou sur Facebook il y a les liens, enfin plein d'endroits pour trouver nos infos.
Et c'est conseillé, j'imagine, parce qu'il y a du monde.
C'est complètement conseillé, un parce que c'est moins cher en prévente et deux parce que effectivement on joue dans des petites jauges et que le risque sinon c'est de venir sur place et de se faire refouler, ce qui est jamais très agréable.
Stones of Babylon, c'est des concerts en prévision à l'issue de la sortie de cet album, une tournée internationale.
Oui, ouais, exactement.
On a ouvert la semaine dernière au Talence, à l'Antirouille, et on poursuit à l'autre bout du monde, à Ouayan, à Salem, le 9 février.
9 février, d'accord.
Avec One Second Before et Jason K, deux autres groupes qui nous accompagnent pour cette soirée.
Ok, et un site internet, une page Facebook pour suivre votre actualité.
Ouais. La page Facebook, voilà.
Stones of Babylon.
C'est vrai que le titre m'interroge parce que Stones of Babylon, on reçoit ça, on se dit tiens, c'est un groupe de reggae, ça va être marrant. Et en fait, pas du tout.
On aime bien surprendre, ouais.
Au tout début, quand on a commencé à monter le projet, il s'appelait Que Babylon. Et alors on était contacté par justement
par le reggae Senska,
par le reggae. Donc voilà, sur les liens internet, c'était que des joueurs de reggae. Et on était, quand on se pointait pour jouer, c'était vous faites du reggae. Alors, au bout d'un moment, on a dit non, ça suffit.
Du coup, vous avez rajouté Stones devant.
Voilà, on s'est dit ça fera peut-être un peu plus rock.
D'accord. Alors, on va se quitter avec un dernier titre de vous, lequel?
Vas-y Tom, choisis, non
tu veux pas. C'est-à-dire qu'il faut choisir, mais je vais le faire au hasard.
Lequel on pourrait écouter? Crossroads, t'en parlais tout à l'heure.
Alors si vous qui avez le boîtier CD, c'est moi qui ai les CD, donc faut me dire le numéro.
T'as le CD A.
J'ai le A.
Alors, bon, alors ils veulent le labyrinthe sur le CD 2.
Ah mais passe-moi le CD alors.
Tout est fait en direct. Hein.
Voilà, vous êtes sur Radio Campus Bordeaux et donc comme vous voyez, l'émission n'est pas préenregistrée.
On triche pas.
C'est du direct et c'est ça qui nous rend.
Le CD 1 parce que je vois qu'il a changé.
Non, labyrinthe, c'est quelle piste?
C'est la 4. C'est toi qui as la pochette. Donc
Et là maintenant, oui.
C'est la 4. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu, Stones of Babylon,
merci
et Tom Phoenix de La Cabale.
Merci.
Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre émission cinéma sur Radio Campus Bordeaux. Ça s'appelle Le Miroir et ça sera suivi de Passeport, votre mag des musiques africaines. Salut, bon week-end à tous.
Salut. Au revoir.
Au revoir.
Shock on the walls, bad home in the mine of time. tainted each of your stumble is falling you away from the fucker's spawn and is bringing you near the monitor that is drumming waiting for the sunbeam. Everybody's got a devil inside waiting behind to trample you but you and break you down while you're losing your time into some maze looking for clues leading to any direction. We'll be right back.